Que Dieu soit béni. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1er et au verset 1 à 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1 à 10. Le thème de ce message, c'est les progrès dans la foi. On est toujours sur ce grand thème de la foi. Nous avons parlé à plusieurs reprises. La semaine dernière, on a parlé notamment des conséquences. Je rappelle quelques conséquences de la foi. Il y a le salut déjà, on est sauvé, on est pardonné de nos péchés, on est guéri. Il y a des miracles, il y a l'exaucement de nos prières. Tout cela se fait dans la foi, parce que nous croyons, parce que nous nous attendons à l'action de Dieu. Et tout cela sont des conséquences. Et j'aimerais poursuivre encore sur ce sujet, ce thème de la foi, pour montrer que nous devons progresser dans la foi. Et pour partir sur ce sujet, nous lirons 2 Thessaloniciens à partir du chapitre 1, verset 1. « De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père, dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Aussi sommes-nous fiers dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez aussi. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ils auront pour peine une ruine éternelle loin de la présence du Seigneur, de la gloire, de sa force. Lorsqu'il reviendra ce jour-là pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. Amen. Amen. On va prier un instant. Merci encore, Seigneur, ta parole qui est la source de notre nourriture, qui va, Seigneur, encore ouvrir notre esprit pour la comprendre, pour la saisir maintenant, de manière, Seigneur, à te plaire, de manière à te servir et à faire toute ta volonté. Oui, c'est en ton nom que nous prions. Conduis, Seigneur, maintenant ce temps, afin de nous rendre attentifs à ta parole, et d'en produire les fruits qui sont dignes de la repentance dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Voilà, les progrès. Il y a 4 fois mentionné la foi ici dans ce passage. La première fois, c'est Paul constate qu'ils ont fait de grands progrès. Elle augmente. Votre foi a fait de grands progrès. Un peu plus loin, il parle au verset 4 de votre foi, la persévérance de votre foi au milieu des persécutions. Et puis à la fin de ce passage, verset 10, vous tous ceux qui auront cru, vous avez cru à notre témoignage. Parmi tous ceux qui auront cru, plusieurs fois, il est question de croire, de foi, et particulièrement cette expression qui a retenu mon attention, de faire des progrès dans la foi. Notre foi a-t-il progressé, elle aussi, depuis notre conversion? Voyez, je me suis intéressé à ce sujet, et en regardant les évangiles, lorsque Jésus considérait les gens, il voyait à l'intérieur, mais notamment, il pouvait instantanément situer le degré de foi de la personne. Par exemple, lorsque 4 hommes amènent un paralytique pour qu'il soit guéri, la Bible dit, Jésus voyant leur foi, il a vu quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Il a vu la foi dans ses cœurs. Et c'est ce que Jésus désire voir ce matin dans notre cœur. Il la voit de toute manière, Mais il désire voir une foi qui est grandissante, une foi qui est authentique, une foi qui est fondée sur la parole. J'aimerais parler des trois stades de la foi. Il y a le premier stade qu'on appelle l'incrédulité. Je l'appelle l'incrédulité ou le stade zéro de la foi. C'est un paradoxe parce que un croyant est censé avoir la foi, n'est-ce pas ? Nous qui sommes croyants, nous sommes censés justement croire. Ça fait partie du mot croyant. Mais nous constatons déjà dans l'Écriture et même aujourd'hui qu'il est possible d'être croyant tout en étant incrédule, ce qui est parfaitement contradictoire. Mais c'est possible. Le paradoxe du croyant incrédule, c'est qu'il est capable de croire certaines choses. Il est capable de croire que Jésus est mort à la croix pour ses péchés. Il est capable de croire en Dieu qui existe, qui lui a préparé une place. Il croit les vérités. Mais quand il se trouve dans une situation où il doit croire pour sa guérison, pour que Dieu pourvoie à un besoin, pour que Dieu intervienne dans sa situation, là, il devient incrédule. Pourtant, c'est un croyant et il est censé croire dans toutes les circonstances. Je vous donne un exemple. Un jour, il y a le père d'un enfant qui était possédé par un mauvais esprit qui est venu vers le Seigneur, mais il n'arrivait pas à croire que Jésus pouvait vraiment faire quelque chose. Alors il dit à Jésus, « Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. » Voilà l'exemple d'un croyant. Un croyant qui dit, « Viens au secours de mon incrédulité. » En même temps, il croit et en même temps, il a du mal à croire. Et ça exprime parfaitement le dilemme dans lequel nous sommes parfois quand nous sommes confrontés à un défi. C'est trop difficile à croire, Seigneur. Nous sommes capables, par exemple, de croire que Dieu va guérir un malade qui a un rhume parce qu'on se dit le rhume, c'est quand même facile à guérir. Mais on a du mal à croire que Dieu va guérir un paralytique. On a du mal à croire que Dieu va pouvoir ressusciter un mort. C'est plus difficile à croire. C'est ça l'exemple du croyant incrédule. Il croit dans certains domaines, pour des petits miracles, pour des petits exaucements, mais au plus profond de lui-même est enraciné cette mauvaise plante qu'on appelle l'incrédulité. Cette incrédulité, elle a été plantée par le diable dans notre cœur, dans notre esprit, afin que nous ne croyions pas vraiment toute la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut la déraciner de notre cœur, l'enlever de notre esprit et confesser, non pas notre doute ou notre incrédulité, mais confesser notre foi. Je crois, Seigneur. Je crois que ta parole est la vérité et je crois que tout est possible dans le nom du Seigneur Jésus. J'ai la foi, je crois. En même temps vient cette pensée d'incrédulité. Cette pensée-là, il nous faut la débusquer et la chasser de notre esprit. Elle n'est pas de Dieu. Jésus n'a jamais été incrédule. Il faut dire une chose, c'est que Jésus n'a jamais péché. Donc, il n'y avait pas en lui la moindre iniquité et Jésus avait une foi pure, une foi parfaite. Et c'est cette foi-là que nous devons rechercher. Et malheureusement, chez nous, elle est souvent tachée d'humanité, de péché, de pensée basse, qui fait que cette foi qui devrait s'élever jusque dans la présence de Dieu, qui devrait grandir, souvent elle en est encore au stade de l'incrédulité, comme cet homme. Je crois, Marc 9, 24, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Jésus reprocha aux disciples aussi leur incrédulité. Pourtant, les disciples, on aurait bien aimé voir les mêmes choses qu'ils ont vues. Ils ont vu Jésus guérir les malades, ils ont vu Jésus ressusciter les morts, ils ont vu vraiment l'action de Dieu sur les puissances démoniaques qui tremblaient devant le nom du Seigneur, ils les ont vus partir par centaines, par milliers, ils ont vu ces choses, mais en même temps étaient attachés à leur cœur de l'incrédulité. Jésus leur reproche, vous voyez, quand Jésus est ressuscité, Jésus leur reproche, vous n'avez pas cru ces femmes qui vous ont annoncé la résurrection ? Luc 24, 11, ils prirent ces discours pour des rêveries. Les femmes venaient annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est ressuscité ? Amen. On le croit ? Mais les disciples ne croyaient pas. Ils ne le croyaient pas. Et quand les femmes vinrent les voir, ils disent, mais ce sont des rêveries. Ils ne crurent pas ces femmes. D'autres versions disent, c'était des absurdités, des niaiseries. Une autre version, je crois que c'est la version Darby, dit, c'était des délires. Ils ne croyaient pas, ils croyaient que c'était une invention. Est-ce que vous pensez que ces disciples étaient des athées? Non, ce n'étaient pas des athées. C'était bien des croyants. C'était des croyants qui ne croyaient pas. Des croyants incrédules. Des croyants qui croyaient certaines choses. Ils croyaient que Jésus pouvait faire des miracles, que pouvait ressusciter des morts. Ils pouvaient faire. Mais quand on leur dit que Jésus est ressuscité, ils ne croient pas. C'est l'image du croyant qui croit jusqu'à un certain point, mais qui ne peut pas croire au-delà, qui n'arrive pas à croire au-delà, parce qu'au fond de lui-même, il y a une racine d'incrédulité qui l'empêche d'aller plus loin. Jésus apparaît à Thomas. Vous savez que Jésus est apparu deux fois aux disciples ressuscités. Il a fallu bien deux fois, parce qu'il y en avait un qui n'était pas là. C'est pourquoi il ne faut pas manquer les réunions, frères et sœurs. Ça me rappelle une assemblée générale. Il y en avait un membre qui n'était pas là. Il y en avait un qui n'était pas là, c'était Thomas. Thomas, il n'était pas là. Et lorsqu'on lui a dit, les autres pourtant, ils étaient 11, ils étaient 10 à témoigner, 10 puisque Judas n'était plus là. On a vu le Seigneur ressusciter, ils pouvaient leur faire confiance, c'était des croyants quand même. Ils étaient sérieux, c'était des gens avec qui Thomas, il avait vécu 3 ans, il savait qu'il ne disait pas n'importe quoi. Eh bien, Thomas n'arrivait pas à croire, impossible de croire. Jésus est donc venu une deuxième fois et c'est seulement là que Thomas a cru. Quand il a vu de ses yeux, quand il a pu contempler le Seigneur ressuscité. Mais vous savez ce que la parole que lui a dit Jésus dans Jean 20, Jésus se tourne vers lui et lui dit, ne sois pas, moi j'allais dire un croyant incrédule, ne sois pas un croyant incrédule, je rajoute croyant, parce que finalement Thomas c'était un croyant, mais un croyant incrédule. Mais il lui dit, mais crois. Et c'est ça qu'il nous faut saisir, frères et sœurs, que parfois nous sommes des croyants incrédules. Nous sommes des disciples de Thomas. Nous n'arrivons pas à croire des choses qui dépassent notre intelligence, notre imagination. J'aime beaucoup ce passage, voyez, parce qu'à la fois on voit la faiblesse de Thomas, qui n'est qu'un homme, et on ne va pas lui jeter la pierre, parce qu'on a tous été un peu comme lui. Mais en même temps, c'est à ce moment, quand il voit Jésus qu'il va faire une des plus belles confessions de la divinité de Christ. C'est le verset suivant, verset 28. Lorsque Thomas se prosterne devant Jésus et lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Mais il parle à Jésus. Ça, c'est un verset qui affirme que Jésus, c'est vraiment Dieu. Et Thomas l'a dit, ça fait partie des 9 versets dans l'Écriture qui affirment la divinité de Christ. Vous voyez, on peut passer de l'incrédulité à une belle confession de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est le même croyant. C'est toujours le croyant Thomas, mais soit il est dans l'incrédulité et alors il nie que Jésus est ressuscité, il ne croit pas vraiment certains miracles. C'est comme aujourd'hui, certains chrétiens nous disent, mais les miracles, oui, on croit, mais on croit que ça s'est arrêté avec les actes des apôtres et qu'aujourd'hui, il n'y a plus les baptêmes du Saint-Esprit, il n'y a plus les guérisons. Tout ça, c'est terminé. Il croit jusqu'à un certain point, mais si notre Dieu est toujours le même, pourquoi est-ce qu'il n'agirait pas toujours de la même façon? Et pourquoi il aurait arrêté avec le livre des Actes des Apôtres les bénédictions qui accompagnaient l'Église? Est-ce que nous sommes toujours l'Église de Christ? Est-ce que nous sommes toujours l'Église de Christ? Nous sommes l'Église. Donc nous pouvons nous attendre à la même action du Saint-Esprit et au même miracle. Ne soyons pas incrédules, frères et sœurs, mais croyons. Cet exemple montre que l'incrédulité, c'est un problème qui touche les croyants aussi, et même les disciples du Seigneur ont été incrédules. C'est un péché, donc, que nous devons confesser, et ne pensons pas que c'est un péché pas grave, parce que c'est vrai qu'il y a des péchés, on va dire, qui auront des conséquences beaucoup plus graves, mais rappelez-vous ce qui s'est passé à Nazareth. Cette petite incrédulité qu'on considère comme presque innocente. Jésus n'a pas pu faire là beaucoup de miracles à Nazareth à cause de leur incrédulité. Cette petite incrédulité, multipliée par l'un, multipliée par l'autre, a fait pousser des obstacles. La bénédiction n'est pas venue. Et je dirais que c'est pareil dans l'Église. Une petite incrédulité, plus une, plus une, plus une, eh bien finalement, ça fait beaucoup d'incrédulité. Et Jésus pourrait nous dire ce matin, ne soyons pas incrédules, mais croyons. Croyons sa parole. Parce que sinon, Jésus dira comme à Nazareth, je n'ai pas pu faire là tous les miracles que j'avais prévus. Je n'ai pas pu faire là toutes les bénédictions à cause de l'incrédulité. Les conséquences, quand on est incrédule, parce qu'on est un croyant incrédule, alors on perd la joie, on perd la paix, on perd la ferveur. On n'a plus envie de louer le Seigneur, on n'a pas envie de servir. Voilà les conséquences. Ça va nous refroidir, ça va nous éloigner de Dieu et on va finir par faire naufrage. 1 Timothée chapitre 1, verset 19. Dans les pires des cas, il est dit que certains ont fait naufrage quant à la foi. 1 Timothée 1, 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Nous devons combattre pour garder la foi dans une conscience pure. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Voilà les résultats de l'incrédulité, frères et sœurs. Ne croyez pas que c'est un petit problème. C'est quelque chose qu'on peut traiter, mais si nous tardons, c'est un petit peu comme celui qui refuse de s'occuper d'une maladie, qui repousse à voir le médecin, qui remet. Eh bien, en attendant, elle est en train de faire ses dégâts. Et un jour, ce croyant va sombrer. Il s'agit bien là de croyants, n'est-ce pas? Ils l'ont perdu, cette bonne conscience. Ils ont perdu la foi. C'est donc qu'ils l'avaient à un moment donné, que c'était des croyants qui sont devenus incrédules et que cette incrédulité a produit leur perte, puisqu'ils ont sombré par rapport à la foi. Donc nous disons que la vie chrétienne, c'est un combat qu'il va falloir veiller et, comme dit Paul à Timothée, combattre en gardant la foi. Garder la foi, c'est notre responsabilité, c'est notre pas. Deuxième stade, on a parlé du premier stade que j'appelle l'incrédulité, le stade zéro, le manque de foi. On croit certaines choses mais pas d'autres, mais on peut aller plus loin et quitter l'incrédulité pour arriver dans le stade de la petite foi. Jésus parle de la petite foi. Il parle de ceux qui ont peu de foi, par exemple. Jean de peu de foi dans la tempête. Matthieu 8, 26. Pourquoi avez-vous peur, Jean de peu de foi? Oui, c'était bien des disciples. Mais là, ils avaient un petit peu de foi, mais pas suffisamment pour le Seigneur. Pierre, lorsqu'il a fait quelques pas sur l'eau, qu'est-ce que lui dit Jésus? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais pourtant, il a quand même fait quelques pas sur l'eau, n'est-ce pas? C'est un croyant, c'est quelqu'un qui est sorti de la barque et qui a fait, par la foi, une marche de quelques pas sur l'eau, mais peu de foi. Et Jésus le voit, il voit ce peu de foi, et déjà, c'est bien, c'est bien. Et il est dit un peu plus loin que Jésus a prié pour la foi de Pierre, justement. Il avait cette foi qui était là, peut-être petite, mais Jésus a prié, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point, pour que tu sombres pas dans la foi, fasse naufrage comme certains. Que cette petite foi grandisse. Et Paul aussi parle aux églises, et il demande aux églises de Rome notamment, d'accueillir les croyants qui sont faibles dans la foi, petite foi, qui ont besoin de grandir dans la foi. La version Semeur dit « mal affermi dans la foi ». Le terme grec, c'est « asthénique », c'est-à-dire un manque de force, un état de dépression, de faiblesse. Voilà le croyant, sa foi est petite, sa foi est faible, et Paul dit dans l'Église, il y en a. Eh bien, nous devrons veiller aussi à les entourer. Ça ne veut pas dire que c'est une situation définitive, parce que Paul ne dit pas « il faut qu'on reste faible dans la foi ». Jésus ne dit pas « il faut rester des hommes de peu de foi ». Non, mais c'est un état par lequel nous passons, et ça veut dire qu'on peut réagir, et je reviens à notre sujet, ça veut dire que nous pouvons faire des progrès, passer de l'incrédulité a un peu de foi, mais on va aller plus loin encore pour avoir une grande foi. Mais déjà, un peu de foi. Regardez Matthieu 17, verset 19. Jésus prend l'exemple du grain de sénevé. Matthieu 17, 19 dit « Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» C'est à cause de votre incrédulité. Toujours le même problème. L'incrédulité bloque les choses. Leur dit Jésus, je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. On est là devant un échec. Et on sait que l'incrédulité génère des échecs. Il y a eu un échec face à un esprit têtu, l'esprit n'a pas voulu sortir de la personne et l'homme est venu pour son enfant, donc voir Jésus. Et Jésus a chassé le mauvais esprit de l'enfant. Et les disciples sont allés vers Jésus, mais comment se fait-il? Pourquoi n'avons-nous pas pu nous le faire? Voilà la foi. Il dit c'est à cause de l'incrédulité. Donc c'est important que notre cœur soit rempli de foi. S'il est incrédule, comme Thomas nous avons dit tout à l'heure, si nous sommes des croyants incrédules, nous ne pourrons pas rentrer dans le terrain du miraculeux de Dieu, nous serons bloqués. Mais si nous avons un peu de foi, il dit, un peu de foi, comme un grain de sénevé, c'est tout petit. Il ne faut pas non plus se méprendre sur ce passage en disant qu'une petite foi suffit pour tout faire, parce qu'on va voir que Jésus n'a pas fini sur le grain de sénevé, il va dire qu'il doit grandir. Mais une petite foi déjà, ça va commencer à pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Petite foi. Mais cette petite foi, voyez, il ne faudrait pas mettre ce passage en dehors du reste de l'Écriture et dire voilà, une petite foi suffit, parce que venez, par exemple, dans Marc chapitre 4, verset 30, Jésus continue à parler sur le grain de sénevé. C'est les deux fois où il parle du grain de sénevé. Et il dit, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénevé qui, lorsqu'on le sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. C'est bien la caractéristique du grain de sénevé, c'est le petit. Mais lorsqu'il a été semé, verset 32, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Qu'est-ce que vous pensez de ce passage? Est-ce que ce petit grain, est-ce que ce grain de sénevé, il doit rester toujours petit? Non. Il commence petit. Et c'est déjà quelque chose, cette petite foi. Mais il n'est pas appelé à rester petit, parce qu'il va rentrer dans notre cœur. Et là, il va être amené à grandir. Cette petite semence, eh bien, elle va devenir plus grande que tous les légumes. Elle pousse des grandes branches. Voilà ce à quoi est appelé à devenir ce grain de sénevé, qui est l'image dans le passage de la foi, on l'a vu tout à l'heure. Si vous avez de la foi comme le grain de sénevé. Donc ce grain de sénevé, voyez, Jésus l'utilise pour montrer, oui, c'est petit au départ, mais c'est destiné à grandir. Et la caractéristique du grain de sénevé, c'est que dès l'origine, on la reçoit dans notre cœur, c'est la foi. Nous avons tout le potentiel. Vous savez, c'est comme une semence. Prenons l'exemple du chêne. Ça part d'un gland. Le petit gland, c'est pas grand-chose, on le tient dans la main. On le jette dans la terre. On pourrait presque marcher dessus au début tellement c'est insignifiant. Et s'il commence à pousser, c'est encore tout, tout petit. Mais déjà, il y a le potentiel pour faire l'arbre, le chêne, qui va faire plusieurs mètres de haut, dans ce gland, à l'origine. Donc, c'est pareil de ce grain de sénevé. À l'origine, il y a tout le potentiel pour que ça se développe et que ça devienne un grand arbre. Magnifique. C'est ça, la foi. La foi va être semée dans notre cœur, qui est l'endroit qui va être propice pour que la foi grandisse. Et ainsi, cette foi est amenée à devenir plus grande. Est-ce que nous désirons grandir dans la foi? Ça, c'est la question que nous pouvons nous poser, parce qu'il n'y a rien de plus bloquant que quelqu'un qui en a fini et qui dit « moi, j'ai plus besoin d'apprendre, j'ai plus besoin ». Les disciples étaient dans une autre dimension. Ils disaient au Seigneur « Seigneur, augmente-nous la foi ». Ça veut dire que dans leur cœur, ils ressentaient le besoin de grandir dans la foi. Je crois qu'on en a tous besoin, frères et sœurs. Moi aussi, j'ai besoin de grandir dans la foi. C'est une nécessité. Est-ce que nous pouvons faire cette prière? Seigneur, augmente-nous la foi. Je ne veux pas rester avec cette foi petite. ou peut-être cette incrédulité, je veux que ma foi augmente. C'est une prière du cœur. Ce n'est pas une prière que je peux faire à votre place, c'est la prière de chacun. Seigneur, augmente ma foi. Mais que va faire le Seigneur ? Le Seigneur n'augmente pas la foi comme ça, d'un claquement de doigts, en disant, toi, tiens, j'augmente ta foi, clac. Toi, j'augmente ta foi. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas instantané. Quand ils prient, Seigneur, augmente-nous la foi, ils vont rentrer dans un processus de croissance. Une naissance, ce n'est pas un claquement de doigts. Il faut bien 9 mois avant de voir le bébé arriver au jour. Et pourtant, quand le processus est enclenché, eh bien, la vie arrive. Ça, mais il faut du temps, il y a un processus, il y a un processus pour que la foi grandisse, c'est pareil. Après, le bébé grandit, il commence, il fait ses premiers pas. Et il commence à marcher tout seul, il commence à parler. Il y a un processus et il ne va pas commencer à parler en bon français à quelques mois seulement. Il va falloir qu'il passe par les étapes. Il en est de même pour le croyant. Et comment est-ce que le Seigneur va faire grandir notre foi ? La Bible montre que c'est par les épreuves que nous traversons, que notre foi va être éprouvée et que notre foi va grandir. Je termine avec une troisième stade, c'est le stade où Dieu nous veut, le stade de la grande foi. Parce qu'on a vu que Jésus a reproché le peu de foi des disciples, mais il a honoré la grande foi de certains, deux notamment. Le premier, c'est le centenier. Dans Matthieu chapitre 8, verset 10, après l'avoir entendu, Jésus a entendu le centenier, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est extraordinaire ce passage. C'est rare qu'on voit Jésus étonné de quelqu'un, étonné par cette grande foi. Oui, parce que Jésus voit la foi, il voit le peu de foi, il voit l'incrédulité. Et quand il trouve quelqu'un qui a une grande foi, eh bien, c'est glorieux. C'est cela que le Seigneur veut, une grande foi. Pourquoi cet homme a dit ceci pour son serviteur ? Il dit, dis seulement un mot, son serviteur était malade. C'est même pas la peine que tu rentres sous mon toit. Dis seulement un mot, là tu es là, tu dis un mot et mon serviteur sera guéri. C'est une foi dans le miracle. Et pourtant, ce n'était pas quelqu'un du peuple de Dieu, c'était un Romain. Donc quelqu'un qui apprenait avec l'aide des uns des autres, mais qui n'avait pas bénéficié de l'enseignement. Vous voyez, on peut connaître peu de choses sur Jésus, mais avoir une très grande foi, parce que ce qu'il connaît de Jésus est quand même relativement limité encore. Mais il met toute sa confiance dans la parole de Jésus. Dis seulement un mot. Et il continue en parlant de l'autorité. Moi, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, fais ceci, il le fait. Et je sais que si je donne un ordre à un de mes soldats, il va le faire. Et il applique ça spirituellement à Jésus. Il sait que si Jésus dit seulement un mot, il sait que ça sera fait. Il est dans le domaine de la foi. C'est comme ça qu'on doit le comprendre. C'est le stade de la grande foi. Et puis, je parlerai de la femme cananéenne qui vient vers Jésus pour sa fille tourmentée par le démon, Matthieu chapitre 15, verset 28. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » Ta foi est grande, encore une fois, une grande foi. « Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. J'aime bien parce que c'est les deux seules fois dans l'Écriture où on voit une grande foi, mais vous avez un homme et une femme. Ce qui montre que c'est possible pour tout le monde. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on peut avoir une grande foi. Pourquoi Jésus lui dit « ta foi est grande » ? Pour son insistance, elle n'est pas du peuple de Dieu. Elle n'est pas non plus comme ce Romain, elle n'a pas bénéficié dans son enfance de l'éducation religieuse. Mais elle sait peu de choses sur Jésus, mais ce qu'elle sait, elle le croit. Elle croit que Jésus peut tout faire. Alors elle insiste auprès du Seigneur, mais Jésus dit « je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël ». Et elle insiste. Et Jésus va lui faire grâce. Parce qu'elle va dire, les petits chiens qui mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres, eh bien c'est eux, ce sont ces païens qui s'approchent et qui bénéficient quand même des restes. Et donc Jésus, sur cette foi et puis cette persévérance, on peut dire qu'elle persévère dans la foi. Elle est là devant Jésus, on veut dire qu'elle ne lâchera pas jusqu'à ce qu'elle obtienne la bénédiction. C'est une foi qui s'accroche et qui ne lâche pas. Elle a insisté. Parce que Jésus lui a demandé d'arrêter un moment. Mais elle a insisté, elle a insisté. Et elle a eu. Luc, dans les Actes des Apôtres, nous parle d'Étienne et Barnabas, dont il est dit qu'ils étaient pleins de foi. Encore là, une illustration de gens qui sont pleins de foi, une grande foi. C'est-à-dire qu'ils avaient atteint encore un certain niveau de foi que d'autres n'avaient pas atteint. Et notre objectif, c'est d'être des hommes et des femmes pleins de foi. Paul parle de la nécessité d'avoir une foi saine dans Tite, chapitre 1, verset 13. « Ce témoignage est vrai, dit-il, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. » C'est ça que Dieu veut pour nous, une foi saine. Une foi qui ne s'attache pas à des fables judaïques, à des commandements d'hommes, on pourrait dire à des traditions humaines, à des religiosités. Une foi qui est saine, qui est pure. Cette foi qui est pure grandit et elle devient solide encore plus. Paul avait remarqué aussi l'excellence des Corinthiens dans 2 Corinthiens 8, 7. C'était des chrétiens qui excellaient. Ils excellaient en toutes choses, dit Paul, et particulièrement dans la foi. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? Il remarquait chez ses croyants l'excellence dans la foi, la recherche de l'excellence dans la foi, rechercher à développer la foi. Voilà ce que nous devons viser. Alors, je termine pour résumer. Nous avons parlé de l'incrédulité, qui est le stade zéro de la foi, la petite foi, la grande foi. C'est vers la grande foi que nous devons tendre. On va prier quelques instants. Comment faire pour grandir? Peut-être quelqu'un réalise justement qu'il est au stade de l'incrédulité. Comment faire pour grandir? Nourrissons-nous de la parole de Dieu. C'est déjà la nourriture de la foi. C'est ce qui va alimenter cette petite foi peut-être, ou cette foi qui est fragile. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. La Bible dit, c'est le lait spirituel et pur. Pour que notre foi soit pure, elle a besoin du lait pur de la parole de Dieu. Attendons-nous à Dieu, quelles que soient les situations, et comprenons que la logique de Dieu n'est pas la même que la nôtre. Que Jésus était entièrement et 100% dans le terrain de la foi. Si bien que lorsque Lazare est mort, Jésus qui est dans le terrain de la foi, dit, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour Jésus, le miracle est possible. Il est toujours dans le terrain de la foi. Il ne quitte pas la foi. Donc la logique de Dieu, ce n'est pas la nôtre. On ne peut pas dire Dieu est arrivé trop tard, ou c'est trop tard, Dieu ne pourra rien faire. Comme dans le cas de Lazare, Marthe a dit, c'est trop tard si tu avais été... Ça, c'est la logique des hommes. Maintenons-nous dans la foi pour recevoir la logique de Dieu. La logique de Dieu, c'est non. Il y a encore quelque chose qui va venir. Il y a encore un miracle. La logique des hommes, c'est il n'y a pas d'issue. Il n'y a aucune solution. Mais la logique de Dieu, c'est je vais créer une porte, je vais ouvrir une porte, je vais faire une nouvelle chose. Dieu dit même à la fin de l'Apocalypse, je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il crée toutes choses nouvelles. On ne doit pas s'inquiéter, frères et sœurs. Où en est notre foi ce matin? Peut-être quelqu'un est déçu, ou plutôt dans la désillusion parce que Dieu n'a pas répondu. On a besoin de chercher sa face et de considérer qu'il nous faut croire au-delà de toute espérance. Pas simplement les petites choses, oui, que Dieu va nous garder aujourd'hui, que Dieu va bénir nos enfants, que Dieu... Et c'est bien, et nous le croyons. Mais notre foi va être éprouvée dans des situations difficiles, sans issue. Est-ce que là, nous serons dans l'incrédulité encore? Est-ce que nous serons des croyants incrédules? Est-ce que nous serons des croyants qui ont une petite foi? On va prier pour vous. J'aimerais prier pour vous spécialement. Peut-être vous qui dites, moi j'aimerais grandir dans la foi ce matin. Je réalise mon manque de foi, mon incrédulité. Je vais simplement vous demander de lever la main à votre place et on va prier pour vous tout simplement. Voilà, je t'ai vu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je vais prier pour vous, bien-aimés. Merci Seigneur, tu vois cette main qui a été tendue vers toi comme un signe, un désir de grandir, Seigneur, dans cette foi, parce qu'on veut grandir dans la foi. On ne veut pas rester là où nous en sommes aujourd'hui, Seigneur. Viens au secours de ces bien-aimés qui s'attendent à toi. Parce que tu ne veux pas l'incrédulité dans les cœurs, Seigneur. Tu veux que la foi remplisse nos cœurs. Maintenant, fais grâce, Seigneur, afin que dans ton Église, tu trouves des hommes et des femmes de grande foi, des hommes et des femmes qui disent « Oui, Seigneur, nous croyons toute ta parole. Tout ce que tu dis, nous le croyons pour nous aujourd'hui. Et nous nous attendons encore aux miracles, aux guérisons, aux délivrances, parce que ta parole nous l'affirme. Et nous voulons rejeter de notre esprit toute forme d'incrédulité ce matin et croire que cette foi va encore grandir pour s'appuyer sur tes promesses, que nous serons des hommes et des femmes pleins de foi, des hommes et des femmes de la parole, qui s'attachent plus à la parole qu'à la pensée du monde. Oui, Seigneur, fais ton œuvre dans les cœurs ce matin, afin que nous puissions progresser dans le nom de Jésus. Amen.